Eh bien. Donc bonjour, ou plutôt bonsoir à toutes et à tous. Hein. Merci de votre présence à cette nouvelle séance du Bistrot des Ethnologues, qui prendra donc place ce soir dans le cadre très chaleureux et sympathique de cette jeune librairie indépendante montpelliéraine qui est la symbolique du poulet, que l'on remercie très sincèrement pour son accueil. Nous avons l'immense plaisir de recevoir ce soir Juliette Clesioux, maîtresse de conférences en anthropologie à l'Université Lumière Lyon 2. Et elle vient nous présenter son ouvrage, celui-ci, paru en 2024, tout récemment, donc, aux éditions de la Société d'ethnologie de Nanterre, intitulé Mariée à tout prix. Parcours de femmes, échanges rituels et démariages au Tadjikistan. Comme nous sommes le mardi 10 mars, soit 2 jours après la Journée internationale des droits des femmes, le sujet qui nous réunit ce soir est des plus à propos, ce dont les membres du bistrot des ethnologues se réjouissent particulièrement. Mais pour partager avec vous l'un des aspects de cet ouvrage qui a le plus retenu mon attention, celui qui m'a le plus touché, permettez-moi de prendre quelques instants pour vous raconter une petite anecdote personnelle. Une fois n'est pas coutume, bien sûr. C'était il y a quelques années déjà. Je me trouvais à Taïwan pour mener mes propres enquêtes de terrain. Cependant, ce dont je vais parler n'a rien à voir avec mes enquêtes de terrain. J'étais dans ma belle famille taïwanaise, donc. Je me suis retiré justement pour couper un peu le terrain, écrire, faire des mails, les activités des chercheurs, quoi. Et il s'est trouvé que ce jour-là, en famille, on s'était réunis, enfin la famille s'était réunie, surtout la génération des parents de mon épouse, donc son père, sa mère, ses oncles et tantes, parce que allait bientôt se dérouler un mariage. Et il fallait décider. Qui on allait envoyer à ce mariage et combien on allait donner, parce que là-bas c'est compté, hein, comptabilisé, pour ce mariage. Et donc les hommes partent en ville, nous laissant tranquilles, hein, boire un verre, pour discuter entre eux avec le père du marié, afin de discuter justement de tout ça. Faisant une pause dans la journée, je descends dans la cour intérieure pour aller voir, voir un peu autre chose que mon ordinateur. Et là, je vois les femmes qui sont restées, donc ma belle-mère et les tantes de mon épouse, donc toutes les femmes des frères de mon beau-père, en train de d'éplucher, de décortiquer des cacahuètes dans la cour intérieure et en train de discuter. Comme je suis anthropologue, je laisse une oreille indiscrète traîner. Et il se trouve que la discussion qui avait lieu là dans la cour intérieure était probablement la même que celle qui se déroulait ailleurs en ville, à savoir qui est-ce qu'on allait envoyer au mariage et combien on allait donner. Quand les hommes sont rentrés, ils arrivent très enthousiastes, expliquant que les relations avec cette famille sont extraordinaires, qu'on va tous s'y rendre et qu'on va donner la somme la plus importante possible pour l'occasion. Ce à quoi les femmes répondent, en fait, pas vraiment. En réalité, on n'est pas si proche que ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des nouvelles. Et au fond, on va envoyer une ou deux personnes, celle-ci en particulier, et on va donner un peu moins, beaucoup moins, en réalité. À ma grande surprise, parce que on m'a vendu le système local comme très patrilinéaire, patriarcal, bah c'est les femmes qui ont gagné la mise, quoi. C'est elles qui ont eu finalement raison et qui ont convaincu leur mari de suivre leur plan pour ce fameux mariage. Et cette anecdote, hein, autour de cette participation du mariage, discutée entre hommes en ville, mais entre femmes à l'extérieur, donc pas en public évidemment, mais qui remporte néanmoins la discussion, la décision finale sur les personnes, les enveloppes rouges, etc. Va bien sûr à l'encontre de beaucoup d'observations qui avaient pu être formulées sur cette question du mariage et que j'avais pu lire jusqu'alors, le fameux mariage et le système patrilinéaire chinois. Donc en retrait, oui, mais publiquement seulement pour la décision. Donc il y avait une dissonance ici entre normes et pratiques, mais surtout une dissonance entre le point de vue des femmes, le point de vue des hommes et surtout ce qui allait en ressortir en termes de décision. Et finalement, c'est ce point de vue des femmes qui est très rarement investigué, qui est très rarement considéré. Ce qui explique justement cette vision un peu monolithique de la patrilinéarité chinoise. Et voilà que, lisant le livre de Juliette, je retrouve aussi ces éléments. Car c'est précisément une partie de ce que propose Juliette dans son travail, de façon bien sûr beaucoup plus approfondie, beaucoup plus systématique. surtout de façon bien plus large, en considérant notamment les femmes dans leurs positions sociales successives, et notamment avant et après le mariage, pas uniquement justement les brus qui discutent de ces questions de somme, mais aussi d'éventuels démariages et remariages, exigeant hein, pour ce faire un travail d'enquête ethnographique qui est à la fois méticuleux et au long cours, et c'est cela que nous offre l'ouvrage de Juliette. Donc l'idée ici, hein, c'est de faire le lien entre justement ce que nous disent les normes, les institutions, ce qu'on a pu en dire notamment en anthropologie, et ce qu'en disent les enquêtes approfondies qui ont pu être menées, mais cette fois du point de vue des femmes. Et c'est ce que l'ouvrage, à mon avis, réussit parfaitement. Cet ouvrage hein, est une très belle réussite de mon point de vue sur le plan formel, hein, à commencer par cette très belle couverture illustrée par Sarah Berry. Il contient aussi... chose de plus en plus rare dans le milieu éditorial, et c'est bien dommage, après la page 214, un magnifique cahier carné de 25 photos qui, à l'exception des deux dernières, qui sont d'archives, ont été prises par Juliette entre 2012 et 2024, souvent avec la fonction de photographe de mariage improvisé, plus ou moins. Elle nous en reparlera peut-être. Ces dates, hein, 2012-2024, indiquent aussi l'ampleur du travail de terrain condensé en un seul tome, en un seul volume, d'un peu moins de 300 pages, et qui repose notamment sur un travail doctoral effectué entre 2011 et 2016. De ce point de vue encore, le travail éditorial et de réécriture qui a été opéré sur cet ouvrage est très soigné, ce qui rend la lecture à la fois très claire, mais sans jamais renoncer aux nuances, aux exigences académiques, à décrire vraiment une réalité toujours complexe. D'autant que le propos s'inscrit à la fois dans le plus classique des champs de l'anthropologie, hein, celui de la parenté, tout en le réexplorant à l'aune d'une ethnographie contemporaine. Elle tient bien évidemment compte de cet héritage disciplinaire, tout en le remettant en perspective avec les données de son terrain. Car c'est surtout, encore une fois, le point de vue qui importe ici et qui donne toute son originalité et sa profondeur à cette contribution. En l'occurrence, le point de vue des femmes. Le point de vue des femmes sur une institution qui les concerne ici particulièrement, celle du mariage, mais ce faisant sur des normes et des valeurs avec lesquelles elles composent tout au long de leur vie. Et, par extension, c'est leur point de vue sur la société tadjikistanaise. Tadjikistanaise. Ce n'est pas facile, dont il est rendu compte ici. Juliette, d'ailleurs, a une très belle formule pour résumer une partie de ses enjeux. C'est à la page 38, je la cite ici. « L'univers que le mariage contribue à reproduire et qui, dans le même temps, le fait advenir. » Pour revenir à l'anecdote que j'ai contée un peu plus tôt, la vision d'un système patrilinéaire, voire patriarcal, monolithique et sans espace d'action pour les femmes, est d'abord le produit d'une parole et de normes produites par les hommes et souvent rapportées par des hommes. Cela n'enlève en rien cependant à la rigueur du contexte pour ces femmes, à leur difficulté d'agir dans cet espace, de tracer leur propre chemin. Et c'est là tout l'objet de ce livre. D'ailleurs, Juliette Lezioux ne se contente pas ici de mettre en lumière des parcours de femmes, ce qu'elle fait avec brio, c'est certain. Elle décrit aussi une société tout entière, en pleine mutation, dans un contexte post-soviétique depuis l'indépendance de 1991, qui se mondialise, se nationalise, qui se caractérise par un fort exode, notamment masculin, pour des raisons économiques, et qui vit dans l'islam. C'est une vision sur le temps long qu'elle propose de plus d'un siècle, puisqu'elle remonte son étude jusqu'au début du XXe siècle, alternant donc éléments ethnographiques en synchronie, éléments bibliographiques et archives historiques, ce qui nous propose, à travers cet ouvrage, un grand voyage au Tadjikistan. Alors, avant de laisser enfin la parole à notre invité, prise de parole qui durera une cinquantaine de minutes et qui sera suivie d'un temps équivalent pour l'échange avec la salle, il me revient de procéder aux remerciements d'usage et de vous faire deux annonces. Je vais commencer par les annonces. La première annonce concerne la prochaine séance du Bistrot des Ethnologues, qui se fera en partenariat avec l'Agora des Savoirs, le mercredi, pas le mardi, le mercredi 25 mars prochain. à partir de 19h, pas de 20h, au centre Rabelais, où nous accueillerons Frédéric Keck, qui viendra prendre la parole sur un tout autre sujet, en l'occurrence les zoonoses et donc les cohabitations avec les animaux en contexte de pandémie. Seconde annonce, nous n'allons pas tarder à lancer la prochaine campagne d'appel à propositions pour la programmation de la prochaine saison du Bistrot des Ethnologues, celle de 2026-2027, la 33e en l'occurrence. Et pour y prendre part, car vous pouvez y prendre part, vous pouvez proposer jusqu'à trois propositions d'ouvrages, hein, notamment, que vous souhaiteriez voir présentées dans le cadre du Bistrot. Il vous suffit tout simplement d'adhérer et puis après de répondre au message qui sera envoyé dans le cadre de cette campagne. Au nom du Bistrot des Ethnologues, j'adresse nos remerciements une fois de plus à la symbolique du poulet pour son accueil ce soir, à nos soutiens financiers, à commencer par le plus important, à savoir la Drac Occitanie qui accompagne infailliblement le Bistrot depuis ses débuts, mais aussi à la mairie de Montpellier, au fonds de soutien à la vie associative et à l'association de jeunes chercheurs Contact. Merci aussi à nos adhérents qui, donc, je l'espère, seront plus nombreux après ce soir et prendront part à la prochaine programmation. Je remercie mes complices du Bistrot des Ethnologues, Anaïs Vaillant qui n'est pas là, Godefroy Lansade qui est ici, Éric Pereira, Marie-Ange Lamène, Lucie Mizi qui sont également absentes et Cyriac Boucher juste là, ainsi qu'évidemment Christelle Lescranier qui s'occupe de la logistique et de la communication du Bistrot et sans qui rien de tout cela ne serait possible. Enfin, nous remercions très chaleureusement Juliette Clesiou d'avoir accepté notre invitation et de se prêter au jeu du Bistrot pour lequel je peux enfin lui laisser la parole. Merci Juliette, merci.
Merci beaucoup Jérôme pour cette très belle présentation. J'ai pas l'habitude justement que d'autres commentent à voix haute l'ouvrage et je t'en remercie parce que c'est toujours intéressant d'avoir un autre éclairage ou d'autres formules en fait pour parler de choses qu'on essaie de montrer avec nuance et voilà. Et puis avec une certaine passion, donc on est ravis quand ça intéresse d'autres gens. Voilà, c'est donc merci à toutes et à tous d'être là ce soir. Alors il paraît que j'ai une cinquantaine de minutes pour présenter cet ouvrage. Je pensais vous proposer de venir avec moi sur le terrain, sur mes débuts de l'ethnographie, de commencer par ça, et puis éventuellement, si vous voulez rebondir à ce moment-là, et puis je parlerai un peu plus du contenu de l'ouvrage dans un deuxième temps. Voilà, donc n'hésitez pas à intervenir aussi entre ces deux parties. Et puis merci au Bistrot des Ethnologues, hein. Il y a des remerciements d'usage, mais je disais que c'est quand même une super belle institution que j'admets vous enviez totalement. Je ne sais pas si on pourra la remettre en place un Lyon un jour, mais en tout cas, c'est inspirant. Alors, comment j'ai atterri au Tadjikistan? Parce que c'est souvent la première question qu'on me pose. C'est vrai que c'est un pays dont on ne parle pas nécessairement beaucoup depuis la France et depuis l'Europe. C'est un pays en fait qui est situé, alors j'ai pas apporté de carte, mais on peut faire circuler peut-être l'ouvrage à la fois pour les photos, pour les cartes, etc. C'est un pays qui se situe au nord de l'Afghanistan et à l'ouest de la Chine, aux confins de l'ancienne Union soviétique, c'est-à-dire à la frontière du sud de l'URSS, et qui était le plus éloigné en fait de Moscou et de toutes les politiques soviétiques mises en place par Moscou durant l'URSS. Alors je reviendrai pas sur toute l'histoire du pays, mais c'est important à comprendre, c'est-à-dire que en fait moi comment j'ai atterri au Tadjikistan, bah de manière assez classique, il y a souvent deux voies pour arriver au Tadjikistan. Soit on arrive par la voie persane, hein, parce que c'est un pays persanophone, musulman et persanophone. Donc ce sont beaucoup de personnes qui ont pu s'intéresser à l'Iran et qui, ne pouvant plus aller en Iran, se rendent au Tadjikistan. Ça, c'est assez fréquent. Ou des gens qui travaillaient sur l'Afghanistan et qui n'ont plus pu travailler sur l'Afghanistan et qui donc sont allés au Tadjikistan. Autant dire que c'est souvent ça fait souvent office de second choix pour beaucoup de persanisants. Mais de second choix qui finalement valait le coup. J'aurais pas fini de le défendre ce choix. Et moi j'ai pas suivi cette voie-là. Moi je suis passée par la Russie. J'ai travaillé lors d'un master d'anthropologie sur des émigrés centra-asiatiques en Russie. En fait, ils y sont nombreux là-bas à travailler sur des boulots relativement précaires. Et moi, je me suis centrée en particulier donc, dans la construction, dans l'agriculture, dans les transports. Et moi, j'ai fait à l'époque une petite ethnographie de master sur les conducteurs de bus tadjiks et ouzbeks en Russie. Et donc, j'étais passée par la Russie. Et en arrivant là-bas, donc en apprenant le russe avant tout, en travaillant, enfin en passant beaucoup de temps sur différentes lignes de minibus conduites par les immigrés centra-asiatiques, j'ai quand même fait le constat que dans cette ville de Saint-Pétersbourg où je résidais depuis une année, il n'y avait quasiment pas de femmes centra-asiatiques visibles. Alors je me suis demandé si elles étaient à la maison, si elles émigraient elles aussi. En tout cas, elles étaient très peu présentes dans les activités habituelles des femmes immigrées. Donc elles étaient peu présentes dans les travaux à domicile, elles étaient peu présentes dans les restaurants, dans le service, etc. Donc effectivement, je me suis un peu plus penchée sur cette question. Et pour préparer mon doctorat, je me suis posé la question de qu'est-ce que ça fait à un pays comme le Tadjikistan de 8 millions d'habitants de savoir que 1 à 2 millions d'hommes émigrent en Russie, voire vivent pour des périodes plus ou moins longues en Russie, donc sont absents de chez eux sur des périodes extrêmement longues, tenant compte que le pays étant très très jeune, la population active en fait qui disparaissait dans cette émigration, en tout cas qui était absente au Tadjikistan, en fait représentait une grosse partie de la population adulte. Et donc c'était un peu ça l'enjeu de ma thèse, c'était de me dire ok, qu'est-ce qui se passe pour les femmes qui restent au pays, dans les villages comme en ville, dans un contexte où les hommes ont massivement émigré vers la Russie. Et j'avais fait un beau projet de thèse, enfin, que je trouvais très beau, avec un super titre qui s'appelait « Celles qui restent », etc. Et j'avais une hypothèse qui était que, un peu comme pendant la Première Guerre mondiale en France, lorsque les hommes sont partis sur le front, lorsque les hommes sont partis sur le front, les femmes se sont mises à travailler dans les usines, parce qu'il fallait continuer hein, de faire tourner la machine, et que les conflits se sont posés au moment où les hommes sont rentrés du front. Je m'étais dit, bah, ça se trouve, pour le Tadjikistan, c'est la même chose. Les hommes partent, les femmes investissent le travail salarié. Ce travail salarié, ou en tout cas ce travail à l'extérieur de la maison, qui finalement avait été peu investi, même à l'époque soviétique. Où finalement, le résultat de l'époque soviétique a été peu concluant du point de vue des autorités pour les femmes tadjiks, en dehors du secteur de l'agriculture, peut-être. Et donc, j'arrive sur le terrain. Doté de mon... Enfin, on est nombreux et nombreux à avoir connu ça, c'est-à-dire qu'on a un super projet. Et on arrive sur place et on se dit, c'est marrant, ça n'intéresse personne. Donc j'ai commencé effectivement à parler voilà, dans ma naïveté, hein, parce que finalement je connaissais quasiment pas le Tadjikistan, je connaissais ce que j'en avais lu, mais j'avais jamais passé de temps au Tadjikistan. Donc j'arrive à Douchanbé, la capitale, je suis hébergée dans une famille, ça se passe très très bien et je retourne chez elle tous les ans depuis 15 ans, donc c'était un match comme on dit. Et je commence à poser des questions autour de moi au sujet du travail salarié à des femmes. Alors vous travaillez, votre mari est en migration, etc. Enfin, et alors le travail, ça passait pas du tout comme sujet de conversation. C'est-à-dire que vraiment, ce n'était pas du tout positivement, à part pour certaines femmes de l'Académie des sciences, qui étaient des chercheuses voilà, aguerries, qui, elles, avaient comment dire, une certaine prestance et satisfaction dans leur travail. La plupart des femmes que j'ai rencontrées me disaient « Mais pourquoi tu t'intéresses à notre travail ?»« Je travaille parce que mon mari, il n'est pas là. Je travaille parce que mon mari, il n'arrive pas à m'envoyer d'argent. » Je travaille par défaut. Et à cause de ça, bah, je ne peux pas élever mes enfants, je ne suis pas là quand il faut, on se dispute avec mon mari, etc., etc. Autrement dit, la première approche du travail qui m'est apparue, c'est une approche de déclassement social. Travailler, dans bien des cas, et je n'étais pas dans les milieux les plus populaires, j'étais en milieu urbain, ce qui signifiait déjà qu'on n'était pas chez les plus pauvres, dans le contexte en tout cas où j'étais. On n'était pas dans des classes moyennes, mais on était, disons, dans une population assez représentative de ce qu'est la population urbaine de Douchanbé, qui ne fait pas partie de l'élite, quoi. Et donc la question du travail pour ces femmes-là, bah, c'était une forme de déclassement. L'important, au contraire, c'était de parler d'autres choses, et notamment de la vie sociale et rituelle qui occupait la plupart de leurs préoccupations logistiques, financières, j'ai envie de dire morales, c'est-à-dire comment être une bonne personne, en fait, s'accomplir en tant que mère de famille, épouse, etc. En tant que femme, ça passait avant tout par une série de rôles familiaux et rituels, avec au cœur de ces événements la question du mariage. En fait, à force de me dire « arrête de parler de mon travail », écoute, là, on va parler du mariage d'un tel, d'une telle. On doit trouver qui sera le conjoint du fils de la voisine, etc. Ben, j'ai fini par les suivre. J'ai fini par admettre que peut-être il fallait que je les écoute sur leurs préoccupations, qui étaient davantage les leurs que les miennes, du coup. Mais que peut-être c'était plus important de s'intéresser à leurs préoccupations que miennes, effectivement. Et donc, de fil en aiguille, je me suis mise à m'intéresser au mariage. Et ça a été assez compliqué parce que le mariage... ça m'a pris beaucoup de temps de réaliser... Alors, j'ai pas mis beaucoup de temps à réaliser qu'il y avait beaucoup de choses que je comprenais pas. Mais ce qui m'a pris du temps, c'est de réaliser à quel point le mariage était étendu dans toute la société tadjik. C'est-à-dire que le mariage, c'est pas juste le moment où on organise une fête et où on unit un homme et une femme dans le but de fonder une famille. C'est ça. Mais ça, c'est une définition très, très partielle. En fait, le mariage, il commence quasiment au moment où des parents se disent « on veut marier nos enfants, on veut marier notre fils ou notre fille ». Là commence une réflexion qui va se mener à l'échelle familiale de qui va être le conjoint de cet enfant que nous allons marier. Ce qui nous donne à dire déjà que le mariage... c'est pas juste l'union de deux personnes, c'est l'alliance de deux familles. Donc on est vraiment là, dans une approche anthropologique très classique de la parenté et l'analyse de tous les réseaux qu'une union permet de créer. Et donc ça, c'est quoi concrètement ? Bah, c'est des hommes et des femmes qui discutent, le père et la mère, qui en général vont aussi essayer d'amener la couverture à eux, c'est-à-dire que eux, ils ont envie de renforcer leur réseau avec certaines parties de la famille élargie, avec certaines parties du village ou du quartier, et pas d'autres. Donc, il va y avoir des tractations entre les parents. Et puis ensuite, on va informer l'entourage un peu élargi, les frères et sœurs, en disant les frères et sœurs des parents, donc les oncles et tantes du ou de la future mariée, pour dire, allez, on se met en route, cherchez, réfléchissez, qui pourrait être le ou la conjointe idéale. Vous allez me dire, est-ce qu'on demande l'avis de du fils ou de la fille, en l'occurrence ? Alors oui, mais pas complètement. Alors, les choses évoluent très, très vite. Donc, il y a une quinzaine d'années, quand j'ai commencé, il y avait beaucoup de mariages où les conjoints ne se connaissaient pas. C'est de moins en moins le cas. À minima, il y a une forme d'échange et d'interaction, même quand le mariage est arrangé. Donc, dans tous les cas, le mariage doit être validé par les aînés. Et ça, c'est jusqu'à aujourd'hui. Même si ce sont des mariages d'amour, même si ce sont des mariages que les enfants ont négociés avec leurs parents, etc. Jusqu'à aujourd'hui, il faut un arrangement familial qui vienne valider ce mariage. Et vous allez voir à quel point il est important. Il est important aussi parce qu'il suscite beaucoup, beaucoup de dépenses et beaucoup, beaucoup de soucis pour les parents. Donc, si je reviens à la petite chronologie, moi, pour me dire... quand est-ce qu'un mariage, comment je définis le mariage ? Il fallait qu'en fait, j'aille chercher tous les événements qui construisaient l'accord et l'alliance entre les deux familles qui décidaient d'unir leurs enfants. Et ça, bah, y en a au moins une quinzaine de ces événements. J'ai essayé de les mettre dans un petit tableau, mais évidemment, ce n'est pas exhaustif. Évidemment, entre une région et une autre, une vallée et une autre, on va dire c'est... il y a des querelles de clochers, c'est pas du tout adapté pour le Tadjikistan, mais il y a des querelles de vallées sur les manières de faire et de ne pas faire, de procéder, etc., le type d'échange. Donc, j'admets que la manière dont je présente les choses ici sont quand même très propres à certaines régions localisées du Tadjikistan. Mais globalement, plus il y a d'événements, plus ça marque la richesse de la famille et sa propension, sa capacité à démultiplier les occasions de se rencontrer et donc se rencontrer signifie au Tadjikistan toujours manger et s'échanger des cadeaux. Vous imaginez le coût que ça peut représenter quand on a une quinzaine d'événements comme ça pour un enfant. Donc dans ma quête de définition, j'ai suivi ces différents événements qui commencent donc au moment des tractations. Et j'ai suivi des femmes qui sont allées examiner une famille. On va enquêter, c'est pas une enquête de mœurs, mais presque. En fait, si, on peut l'appeler enquête de mœurs, mais ça n'a pas la forme administrative que ça avait pu avoir en France, notamment lorsqu'un fonctionnaire se mariait. Là, on a un principe où on va faire jouer la réputation, les réseaux de réputation, de rumeurs, etc., pour susciter, générer des informations, collecter des informations sur la famille, en l'occurrence. Et comment... Après, il faut aller les voir en chair et en os. Donc, la mère du jeune homme se rend chez les parents de l'éventuelle future belle-fille, sans son fils, et avec une bassine de cadeaux. Il y a une bassine comme ça qui est en photo dans le livre. Et cette bassine, elle contient à minima du pain, fait maison en général, différents types de galettes de pain, des bonbons, des choses sucrées, il faut que ça soit doux, sucré, et un foulard de tête, le foulard que les femmes tadjiks portent sur la tête façon fichue. Donc il ne faut pas que ça soit trop, mais il ne faut pas que ce soit pas assez. C'est à minima, les règles de l'hospitalité l'imposent. Et c'est envelopper tout ça dans une sorte de nappe, de la taille à peu près de celle qui est là. C'est transporté sur la tête ou sous le bras, on se rend chez la personne, on le dépose à l'entrée, on toque à la porte, on le donne à la maîtresse de maison, on va s'installer au salon et on échange. On boit du thé, on échange surtout sur rien. Vous êtes qui, et les voisins, et ici c'est bien, etc., etc. La femme qui accueille, selon les règles de l'hospitalité traditionnelle, doit toujours recevoir, prendre ce qu'elle a reçu et remplacer ce qu'elle a reçu par autre chose en moindre quantité. Ça, c'est les règles de la politesse habituelle. Pour signifier qu'elle est d'accord pour continuer les tractations, elle doit réaliser ce contre-don. Si elle ne le fait pas, si elle ne touche pas à la bassine qu'elle a rendue telle qu'elle, ça signifie, elle dit à la mère de ce jeune homme, « Je ne suis pas intéressée pour ma fille. » Dans ces cas-là, elle repart avec son mari. Mais l'autre ne le sait pas jusqu'à ce qu'elle rentre chez elle et qu'elle ouvre le baluchon. Donc, ça, c'est la première étape. Mais la première étape, elle peut être un peu répétée, parce que si on a plusieurs refus, il faut quand même faire plusieurs maisons. Et donc, plusieurs enquêtes demeurent. Donc, ça, c'est la première étape. Une fois que les tractations sont enclenchées et qu'on dit oui, il peut y avoir aussi oui, mais. Aujourd'hui, il y a beaucoup de oui, mais. Oui, mais attendez, ma fille, elle voudrait voir une photo quand même du fils. Oui, mais est-ce qu'il peut venir? Enfin, voilà. Maintenant, il y a quand même des choses où ça se modernise. Est-ce qu'il peut me passer son Insta? Voilà. Ça existe aussi maintenant. Donc, et c'est autorisé, c'est toléré par les parents. Ils disent oui, vous comprenez, les jeunes, ils veulent se voir, etc. Donc, tout ça, mais ça n'existait pas du tout. Il n'y avait pas de smartphone en 2012 quand j'y suis allée. Et par contre, tout le monde aujourd'hui a la 5G et 3 cartes SIM. Enfin, je veux dire, il y a une sorte de transformation radicale que je n'arrive moi-même pas à suivre, puisque j'ai essayé de publier quelque chose sur Insta tout à l'heure et j'ai. À ma grande honte, je n'ai pas réussi. Donc voilà, il faut que je m'actualise plus rapidement. Donc ça, c'est la première étape. Et après, qu'est-ce qui se passe? Les deux familles vont se mettre d'accord sur déjà la possibilité pour les jeunes d'organiser des petits dates et des petits rendez-vous, mais en nombre limité. 4, 5, pas plus. Si ça valide, on continue. On va organiser, accumuler les biens nécessaires là à la cérémonie de mariage, dont on doit fixer la date, dont on doit fixer aussi le montant. Et là, il y a des prestations qui sont en jeu, c'est-à-dire qu'il est attendu que la famille du jeune homme donne une certaine somme d'argent qui était autrefois donnée en nature, et qui est en partie d'ailleurs encore donnée en nature en milieu rural. Donc, on donne du coton, de l'huile de coton d'ailleurs, du textile, du riz, du sucre, de la farine, Ça, c'est les biens de base qui sont encore, en tout cas qu'il était encore en 2012, souvent donnés en nature. Et on rajoute une somme d'argent entre 2 et 4 000 dollars en plus. Ça, c'était il y a 15 ans. Hein, les sommes ont changé. Entre 2 et 4 000 dollars en plus. La famille de... ça, c'est une somme qui peut être à peu près négociée. Souvent entre les deux hommes de la famille, enfin de chaque famille, les deux pères. On essaie de négocier, de trouver un compromis, etc. La transaction est faite. Ça, c'est la prestation qu'on appelle en anthropologie le prix de la fiancée ou la compensation matrimoniale. Donc ça, c'est un transfert qui va directement aux parents de la jeune fille. Les parents de la jeune fille, aujourd'hui, ils sont soumis à une pression énorme pour accumuler un trousseau extrêmement important pour la fille, donc de la doter de manière très riche. Sauf que la dotation, aujourd'hui, n'est pas limitée. On ne la négocie pas. C'est chacun fait comme il le sent. Sauf que les enjeux de réputation sont tels, parce qu'on peut se dire « Ah, elle n'a pas bien doté sa fille. Lui, il a été un peu... voilà, il avait des oursins dans les poches, comme on dirait ici, etc. etc. » Donc, il peut y avoir des enjeux de réputation très forts sur la manière dont on dote sa fille. Pourquoi il y a des enjeux de réputation? Parce que la dot, on la montre avant le mariage. Il y a une fête qui précède la cérémonie de mariage, qui s'appelle l'invitation pour le thé, dans laquelle la famille de la jeune fille ouvre sa maison, présente le trousseau dans une cérémonie qu'on appelle le tukus binon, qui veut dire littéralement montrer le trousseau. Et donc tout le voisinage et toute la famille élargie vient et passe pour regarder tout ça. Donc l'argent en fait qu'on reçoit du père du jeune homme, on le réinvestit. Le coton qu'on reçoit, on crée des coussins, des tapis, des canapés, etc. Les textiles, on les transforme en robes. Tout l'alimentaire est transformé en repas. Mais en plus de tout ça, en fait, on doit aussi acheter le nécessaire, le mobilier nécessaire qui accompagne la modernisation des foyers au Tadjikistan aujourd'hui. Et c'est quoi ? C'est toute la literie. Donc là où on dormait sur des matelas qui pouvaient faire office soit de lieu pour s'asseoir en journée, soit de lieu pour dormir, mais qui pouvaient être qu'on pouvait déplacer dans la journée, donc et déposer dans n'importe quelle pièce. Hein, aucune pièce n'était une chambre à part entière au départ. Là aujourd'hui, on installe des lits qui font 2 mètres sur 2. Avec des coiffeuses, avec des grandes armoires, tout ça est inamovible, ça reste dans les chambres. Ça spécifie d'ailleurs les chambres, les chambres à coucher émergent en tant que telles. C'est des pièces en moins pour les maisons et pour les appartements, du coup, puisqu'elles ne sont plus polyvalentes. Et ça coûte très très cher. Il faut rajouter des tapis, il faut rajouter des lustres, ensuite il faut rajouter tout l'électroménager, le frigo, le lave-vaisselle, le micro-ondes, etc., le mixeur, toute la série, toute la vaisselle, etc., etc. Donc, vous vous rendez compte que, en fait, rien que cette évocation-là, les sommes dépensées, vous comprenez que les sommes dépensées par les parents de la jeune fille dépassent bien largement les sommes désormais reçues, enfin, qu'elles reçoivent de la famille du jeune homme. Là où, avant, ça s'équilibrait, aujourd'hui, il y a une forme d'inflation de la dot. Et pourquoi c'est important ? Et là, ça me fait revenir à mon terrain. Je suis un peu cyclique, mais c'est qu'en fait, pourquoi les gens étaient hyper préoccupés par le mariage ? Et parce que ça coûte super cher. Et qu'il n'y a pas beaucoup d'argent au Tadjikistan, il n'y a pas beaucoup d'emplois. Et donc, j'ai commencé à faire des petits calculs. Et les calculs de l'époque montraient que pour un mariage, on dépensait environ 40 salaires mensuels. Vous voyez ? 40 salaires mensuels. En France, on est entre 5 et 6. Et déjà, il n'y a plus grand monde qui veut se marier. Hein ? Quoique c'est faux, ça revient à la mode. Mais vous voyez, là, il y avait un enjeu financier. Outre toute la logistique nécessaire des 15 événements, je ne les ai pas tous faits, mais qui sont nécessaires aux cérémonies de mariage, qui sont attendues. Il y a plein de rencontres intermédiaires. Bon, tout ça, je ne vous en parle pas parce que ce serait trop détaillé. Mais il y en a beaucoup. Les cérémonies de mariage s'arrêtent en plus, pas au mariage, ce serait trop beau, mais à la naissance du premier enfant qui nécessite à nouveau une cérémonie du premier enfant du couple. C'est là que le mariage est validé. pour les femmes qui ont du mal à tomber enceinte, c'est très compliqué parce que ça met en suspens en fait la validation du mariage. Bon, enfin donc il y a tout ça. Donc les gens sur place, bah, ils passent beaucoup de temps à parler d'argent, à parler de combien coûte quoi, à parler de comment les voisins ont fait leur mariage et du coup on en est où dans les standards attendus. Parce que c'est ça que ça veut dire. Le standard, il est défini par les voisins. Donc, on en est où? Et les bijoux en or offerts à la mariée, c'était combien de carats? C'était de Dubaï ou c'était de Chine? Vous voyez, tout ça, c'est hyper important, en fait. Mais comment on sait tout ça? Bon, on sait tout ça si on laisse traîner une oreille quelque part où il faut le savoir. Et traîner une oreille, bah, ça veut dire participer à des laisser traîner une oreille, ça veut dire participer à des événements de sociabilité. Les organiser chez soi, c'est coûteux. Ou aller chez les autres, où de toute façon, il faut quand même apporter des baluchons de biens, de textiles, de pain, etc. Donc en fait, la sociabilité est coûteuse, mais elle est toujours réciproque. Hein, il y a toujours un système de... Mais il faut quand même il y a quand même un coût d'entrée, hein, comme diraient certains économistes. Donc il y a un coût d'entrée dans ces réseaux de sociabilité. Et ce coût d'entrée, il est à la fois financier. Et là, j'ai envie de vous parler d'immigration. Mais je vais finir ma phrase d'abord. Il est à la fois financier et il est à la fois, j'ai envie de dire, moral et statutaire. Toutes les femmes ne peuvent pas participer aux sociabilités entre femmes. Ou ne sont pas considérées comme légitimes à le faire. Les femmes qui le sont, ce sont les femmes mariées. Donc il faut être mariée, ça paraît logique, pour entrer dans les sociabilités qui vont vous permettre de savoir comment marier vos enfants. Et c'est une fois mariée, et c'est en réalisant cela aussi, que je me suis dit, ah mais en fait, les femmes, c'est pas qu'un savoir-faire de savoir marier des enfants, savoir organiser les rituels, savoir faire des repas pour 350 personnes, savoir faire contacter les artistes, savoir contacter les invités, etc., etc. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi savoir échanger les biens à qui et comment, et garder en mémoire ces circulations pour savoir combien donner en échange. Hein, puisque si on vous invite à un mariage, vous allez attendre que la personne que vous inviterez à votre propre mariage, au mariage de vos enfants, vous donne de manière proportionnelle le cadeau que vous aviez fait initialement. C'est ça la logique. Donc c'est une logique d'endettement permanente, mais d'endettement dans des réseaux de sociabilité sur lesquels on compte, à un moment donné, pour organiser son propre mariage. Ou le mariage de ses enfants plutôt, okay, ou de sa petite sœur, de son petit frère, etc. Donc moi, je me suis arraché les cheveux pour savoir combien coûtait un mariage, parce que s'il faut suivre tous les événements d'une famille, c'est tout le temps en fait, il faut être là tout le temps, il faut être hyper mobilisé pour avoir toutes les discussions, etc. L'avantage d'habiter chez la personne chez qui je suis arrivée le premier jour, c'est que... on s'est tellement bien entendu qu'au bout d'un an, elle m'a nommé l'équivalent un peu de témoin du mariage de sa fille. Donc j'étais aux premières loges. Je ne savais pas que ça exigerait tant de moi par ailleurs, mais c'était un grand honneur en fait d'être nommé témoin. Sauf que ça exigeait de moi aussi de devenir l'équivalent d'adopter un rôle de belle-fille en fait, hein, et de... C'est-à-dire corvéable à merci aussi, c'est ça que ça voulait dire. Donc en termes de ce qu'il fallait faire pour les mariages, qui quand ils sont organisés à la maison, ce qui était le cas le plus souvent il y a 15 ans, ce qui ne l'est plus. Hein, ben aujourd'hui, ça a lieu dans des restaurants, tout ça est délocalisé. Mais quand ça a lieu à la maison et que vous recevez en deux jours, deux fois 350 personnes, c'est horrible. Mais c'est tellement horrible, et tout le monde le sait, que les femmes... appellent d'autres femmes de leur propre famille une semaine avant pour tout préparer. Donc en fait, les jeunes filles célibataires qui ont entre 14 et 18 ans sont des jeunes filles mobiles dans la famille parce qu'à chaque mariage, elles sont envoyées pour aller aider. Quand elles sont un peu plus vieilles, elles vont aussi aller aider, mais elles vont accomplir d'autres rôles. Il y a toujours certaines femmes de confiance dans la famille à qui on va notamment confier le rôle de la redistribution des cadeaux. Cela, il ne faut pas se tromper. Ça, il faut un vrai savoir-faire. Telle voisine a donné tant, donc combien on redonne? Parce que la mère de famille, elle ne peut pas gérer ça quand elle a 300 baluchons dans la pièce attenante. Des fois, on loue des remorques pour mettre les baluchons. et faire les échanges dans la remorque. C'est des... Je veux dire, on est sur des quantités qui sont faramineuses. Donc, c'est là où je me suis... enfin, en voyant ces sources de préoccupation, à la fois en temps, en logistique et financière, ça m'a mené à nouveau à aller voir ce qui se passait du côté de la Russie, en tout cas du côté des migrants, et à explorer un peu plus le champ, enfin le caractère un peu cyclique de la migration en lien avec l'endettement qui était nécessaire pour le mariage. Parce qu'en fait, dans l'histoire du Tadjikistan, après 91, le pays s'est retrouvé indépendant un peu contre son gré, hein, disons-le. C'est la Russie qui s'est émancipée de ses propres colonies de ce point de vue-là. Donc on est dans une histoire coloniale un peu compliquée où le Tadjikistan, qui ne désirait pas son indépendance, se retrouve indépendant. Mais il se retrouve indépendant dans une situation de banqueroute économique, puisque la République soviétique du Tadjikistan n'était pas en bonne forme. Et là, en fait, la situation économique du Tadjikistan, du point de vue de Moscou, elle était pensée en lien avec d'autres républiques, puisqu'il y avait des redistributions entre les fonds des différentes républiques. Après l'indépendance, c'est chaque république pour elle-même. Donc le Tadjikistan se trouve au bord de la rupture économique et traversé par des tensions, des factions en fait, politiques, des luttes de factions extrêmement fortes, qui sont liées à des appartenances régionales. On avait 4 clans, les héritiers plus ou moins des communistes, qui constituaient l'élite locale, qui s'est opposée aux islamistes et aux démocrates, qui, eux, étaient alliés entre eux. Encore une originalité locale. Et là, on s'est retrouvé dans un moment où la situation du pays imposait à de très nombreux hommes du centre du pays de s'enfuir. Parce que les combats étaient tels que n'importe quel homme qui se trouvait là dans la rue pouvait risquer vraiment d'être assassiné. Donc l'exil vers la Russie a commencé, des gens qui sont partis à pied. On est sur les années 90, c'est des années très sombres pour le pays, avec beaucoup, beaucoup d'hommes qui partent en Russie, mais du coup qui s'implantent, qui s'appuient quand même sur des réseaux antérieurs de l'époque soviétique, de Tadjiks qui étaient déjà installés en Russie, en Ukraine, en Biélorussie, etc., parce qu'à l'époque, les gens pouvaient bouger, et qui vont commencer assez tôt à envoyer l'argent au Tadjikistan. Alors bon, la Russie, ça paraissait pas la terre de rêve, surtout du point de vue de l'Europe dans les années 90, mais en fait, à la fin des années 90, pour des Tadjiks, c'est quand même un lieu où on peut générer des revenus et les envoyer au Tadjikistan. Et l'écart de pouvoir d'achat est tel qu'en fait, ça génère un certain retour pour certaines familles. En tout cas, ça leur permet déjà de survivre à la guerre civile. Et ça génère un retour progressif à une forme de prospérité, je dirais pas, mais en tout cas, une forme de ritualité cérémoniale qu'on s'autorise. On ne payait plus du tout les mariages dans les années 90. Au début des années 2000, on voit les cérémonies de nouveau revenir, et revenir encore plus flamboyantes qu'avant. Enfin, ça valait la prospérité des années 60-70. Et donc les cérémonies se développent, les coûts deviennent démentiels, et ça devient un cercle vicieux. C'est-à-dire que pour financer un mariage, on envoie un migrant qui revient pour se marier, ou pour marier son petit frère, à nouveau il faut repartir, etc. Donc il y a une sorte de cycle sans fin qui aujourd'hui s'atténue un peu pour plein de raisons, mais aussi parce que de façon, les dépenses ont été légiférées en fait. Mais donc ce cercle vicieux, il a atteint beaucoup de familles, il a marqué beaucoup de familles, tout en créant de fortes inégalités de mariage entre les membres d'une même fratrie. Parce qu'en fait, on mariait au plus fort dès qu'on avait les moyens. Mais si pour le deuxième, on n'avait plus d'argent, le mariage était moins beau. Puis si pour le troisième, on avait de nouveau beaucoup, alors on dépensait beaucoup. Mais comme la plupart des femmes m'ont dit à l'époque, on marie un enfant et on mange des patates pendant 3 mois. Enfin, il y a vraiment un sens de la privation qui est très très fort. Et parfois, ça a représenté 1, 2, 3 ans d'économie faite en Russie. Donc là, il y a aussi un décalage. Je l'ai moins exploré dans le livre parce que, pour des raisons éditoriales, on m'a demandé de retirer la dimension migratoire que j'ai exploré ailleurs, du coup. Mais il y a quand même un décalage aussi de trajectoire de ce point de vue-là. C'est-à-dire que les hommes qui partent en Russie, qui essaient d'accumuler de l'argent pour faire vivre leur famille, et les qui accusaient les femmes de réaliser des dépenses inconsidérées en quelques jours, quelques semaines, alors que eux, ça faisait 3 ans qu'ils travaillaient à accumuler cet argent. Donc il y a des négociations très fortes là qui se font, en tout cas qui se faisaient entre des hommes qui disaient mais il faut dépenser moins, et les femmes qui disaient mais tu veux que je m'occupe de ta réputation, mais tu sais pas comment faire. Enfin, moi je sais comment on fait et je sais ce qui se fait ici. Toi t'es partie depuis trop longtemps, donc c'est je sais. On sait. Parce qu'une femme n'est jamais seule dans sa famille. On sait. Ce qui a renforcé en fait la division des tâches, hein, très clairement, entre des rôles associés aux femmes et des rôles associés aux hommes. Et clairement, le domaine matrimonial et le domaine de l'échange aussi, hein, de l'échange de biens, des cadeaux, etc., c'est aujourd'hui encore une sphère de compétences féminine, hein, des femmes. Donc il y a la dimension rituelle et puis il y a la dimension économique qui est... Et c'est ça que j'ai aussi essayé de montrer, c'est-à-dire que les femmes, elles ne sont pas là juste pour faire du rituel, elles sont là pour gérer économiquement la faisabilité des rituels dans le temps, en fait. Elles donnent pas l'input financier initial, quoique de plus en plus, parce que de plus en plus, il y a des femmes qui émigrent aussi en Russie et qui travaillent aussi au Tadjikistan. Mais c'est elles qui rendent durable, en fait, les circuits de dons et de contre-dons dans le temps. Donc elles ont un savoir-faire, elles ont des compétences économiques qui relèvent du domaine à la fois marchand, parce que c'est quand même elles qui vont sur les bazars pour acheter tous les biens, et en même temps non marchand, c'est-à-dire cette histoire de don contre don. Quoi. Voilà. Et donc la mémoire aussi des sociabilités, de qui t'a bien rendu, qui t'a pas bien rendu. Et en même temps, il y a aussi des tolérances. Oui, mais elle est dans une histoire compliquée. Oui, mais en ce moment, son mari, ça va pas. Oui, etc., etc. Donc, il n'y a pas d'intransigeance vis-à-vis d'un contre-don qui serait sous-estimé ou d'un cadeau qui serait... voilà. Mais bon, il y a quand même des interprétations qui sont intéressantes à comprendre localement.